Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Au Ghana, vote dans le calme pour la présidentielle et les législatives. Incident au Parlement à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a constaté hier l'échec de la coalition au pouvoir. Le pape François se rendra en Irak en mars prochain, son premier voyage à l'étranger depuis le début de la pandémie et une première historique pour un souverain pontife. Lutte contre le coronavirus, le Royaume-Uni démarre les vaccinations alors que la Californie retourne au confinement. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Les Ghanéens ont voté lundi dans le calme pour élire leur président dans un duel où s'affrontent le chef de l'État sortant, Nana Akufo-Addo, et son rival, l'ancien président John Mahama. Abdourahman Dia.
Le chef de file du Congrès national démocratique et désormais dans l'opposition, John Mahama, a voté à Bolé dans le centre-ouest de sa région d'origine où le scrutin s'est déroulé sans incident. Cela a fait depuis 1992 que je vote ici et comme toujours, tout se passe sans encombre et dans le calme, se félicite l'ancien président qui espère retrouver le fauteuil qu'il a perdu il y a 4 ans. Même constat pour le président sortant Nana Akufo-Addo qui est arrivé confiant et souriant à Kiébi dans l'est du pays. « Je vais bien et je suis bien content du déroulement de la journée », a-t-il déclaré à la presse. « Nous allons renforcer les engagements que nous avons pris pour nos institutions démocratiques. » Aucun incident majeur n'a été enregistré à la mi-journée après l'ouverture des 38 000 bureaux de vote à 7 heures GMT à travers le pays. Les opérations de vote se sont déroulées plus ou moins dans le respect des mesures barrières, du port du masque et de la vérification de la température des électeurs, selon des journalistes sur place. Plus de 17 millions de Ghanéens doivent choisir entre 12 candidats, dont 3 femmes, pour le poste de la magistrature suprême et élire les 275 députés du futur Parlement.
En République démocratique du Congo, des incidents ont éclaté ce lundi dans l'enceinte du Parlement à Kinshasa, au lendemain de l'annonce par le chef de l'État congolais de la fin de la coalition au pouvoir. Plus de détails avec Eddy Issango.
Le Front commun pour le Congo, ou FCC, de l'ancien président Kabila, affirme avoir pris acte de la décision du président et lui demande d'en tirer les conséquences. Le camp politique de Joseph Kabila invite les caches de M. Tshisekedi à se retirer donc du gouvernement et des institutions provinciales. Les FCC s'est dit majoritaire au Parlement. Le PPRD, parti de Joseph Kabila, insiste sur le respect de la Constitution et rappelle que le président de la République a été élu sur un même bulletin que les députés et appelle des élections générales si le mandat de la législature devait être mis en cause. Mais les caches soutiennent que la majorité s'était fritée car beaucoup des membres du FCC ont fait défection. Les caches affirment avoir récolté plus de 250 signatures et demandent la démission du bureau de l'Assemblée nationale. Des échauffourées ont éclaté l'après-midi au Parlement. La police a dispersé à coups de gaz lacrymogène les partisans du cache qui brutalisaient les députés FCC. À l'extérieur, mais à l'intérieur, des députés ont cassé des meubles pour empêcher la tenue de la plénière.
Par ailleurs, le FCC estime que les décisions unilatérales du chef de l'État violent gravement la Constitution et servent de prétexte pour liquider par l'instauration d'un régime dictatorial au service d'un pouvoir personnel les institutions. Le FCC prend acte de la décision du président de la République de mettre fin à la coalition, a ajouté son coordonnateur, Nehemi Mwilania, l'ancien directeur de cabinet du président Joseph Kabila. En Éthiopie, le gouvernement a affirmé vouloir un retour à la normale et être en train de rétablir les services de base au Tigré, région du nord du pays privée d'approvisionnement depuis un mois. La phase active des opérations militaires est terminée, a affirmé le cabinet du Premier ministre Abiy Ahmed dans un communiqué. Les Nations Unies ont récemment obtenu d'Addis Abeba un accès humanitaire au Tigré, mais la persistance de combats complique l'acheminement de l'aide. Au Soudan, des centaines de déplacés par le conflit au Darfour ont manifesté ce lundi dans le camp de Kalma à Niala contre la perspective d'un retrait prochain de la mission onusienne de maintien de la paix. Les Nations Unies et l'Union africaine ont récemment préconisé la fin au 31 décembre de la MINUAD déployée dans la région depuis 2007 et qui compte quelque 8000 casques bleus. En Algérie, l'opposant et figure centrale du Irak, Karim Tabou, a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour atteinte à la sûreté nationale, une peine relativement clémente qui lui permet de ne pas retourner en prison. Le procureur avait réclamé 3 ans de prison ferme. Toujours en Algérie, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a regretté le paiement de rançon pour libérer des otages dans une référence implicite à la France après la récente libération au Mali de 4 otages, dont une Française. Le Maroc et la France ont signé aujourd'hui à Rabat un accord pour faciliter le retour des migrants mineurs dans leur pays d'origine. Le volet le plus complexe des mesures souhaitées par les pays européens pour juguler le flux des clandestins originaires du Maghreb. Le président français Emmanuel Macron, qui reçoit lundi à Paris son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, s'est affirmé l'avocat constant d'une ouverture démocratique et d'une société civile active et a assuré avoir évoqué le sort de plusieurs militants des droits de l'homme emprisonnés lors d'une conférence de presse conjointe avec le président al-Sissi, dénoncée par les ONG pour des atteintes aux droits humains.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le pape François se rendra en Irak début mars, son premier voyage à l'étranger depuis le début de la pandémie et une première historique pour un souverain pontife. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Accueillant l'invitation de la République d'Irak et de l'Église catholique locale, le pape François effectuera un voyage apostolique dans ce pays du 5 au 8 mars 2021, visitant Bagdad, la plaine d'Our liée à la mémoire d'Abraham, la ville d'Erbil ainsi que Mossoul et Karakoche dans la plaine de Ninive, a annoncé le porte-parole du Vatican. Ce voyage inédit pour un pape symbolise un message de paix pour l'Irak et pour toute la région, a réagi le ministère irakien des Affaires étrangères. Le pape a reçu au Vatican en janvier dernier le président irakien Bahram Sali. La plaine de Ninive avait été occupée par le groupe État islamique entre 2014 et 2017. La communauté chrétienne de cette région du nord de l'Irak n'y est jamais revenue en grand nombre car les tensions entre groupes armés se poursuivent et les infrastructures publiques ont été détruites. Aucune personnalité étrangère ne s'est rendue à Mossoul depuis plus de 5 ans. Jusqu'en 2003, l'Irak comptait 1,5 million de chrétiens. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 300 000 à 400 000 selon l'ONG Amourabi qui milite pour la défense des droits de la minorité chrétienne en Irak.
Le point de la pandémie du Covid-19 dans le monde, l'université Johns Hopkins fait état de plus de 42 millions de cas confirmés et environ 1,5 million de morts depuis décembre. Après la Russie, le Royaume-Uni prévoit de commencer les vaccinations mardi. Mohamedou Oumfa nous en dit plus.
Les premières doses du vaccin de Pfizer et BioNTech vont commencer à être administrées demain mardi en Angleterre, au pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord. La Suisse, contrairement à de nombreux autres pays occidentaux, ne dispose pas de procédure d'homologation en urgence. Elle ne devrait donc pas commencer à vacciner sa population avant 2021. L'Inde, qui est le deuxième pays le plus contaminé avec plus de 9,6 millions de cas, veut commencer à fabriquer le vaccin développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford. En France, le cap des 5000 contaminations par jour, fixé par le président Emmanuel Macron comme condition pour lever le confinement, s'avère difficile à atteindre car le nombre de cas quotidiens plafonne à environ 10 000. L'Allemagne peine à endiguer la seconde vague et s'apprête même, dans les régions les plus touchées, à durcir les restrictions. Le gouvernement grec, quant à lui, prolonge jusqu'au 7 janvier les principales mesures de confinement, dont la fermeture des écoles.
Ici aux États-Unis, en Californie, sur la côte ouest du pays, plus de 20 millions de personnes sont confinées depuis ce matin pour tenter de faire baisser les nouvelles contaminations. Cette mesure a été prise car 85% des lits en unité de soins intensifs sont occupés et que les hôpitaux risquent d'être submergés. Le président élu américain Joe Biden a annoncé plusieurs nominations pour sa future équipe en charge de la santé en pleine pandémie de coronavirus. Il a choisi notamment le procureur général de Californie, Xavier Becerra, comme ministre de la Santé. S'il est confirmé par le Sénat, M. Becerra deviendra le premier hispanique à la tête de ce ministère. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont réunis par visioconférence ce week-end pour le lancement en janvier des échanges commerciaux dans le cadre de la zone de libre-échange. À cette occasion, le président nigérien Muhammadu Issoufou a présenté un rapport sur l'état d'avancement de la ZLECAF. Il a par ailleurs exhorté les États membres et unions douanières à présenter des offres tarifaires avant le mois de juin. En Côte d'Ivoire, les activités ont repris ce week-end dans la mine de bauxite de Bénéné après 3 mois de fermeture en raison des violences électorales, a déclaré ce week-end Moumouni Victogo, directeur de Lagune Exploitation Bongouanou, précisant que cet arrêt et la crise du coronavirus ont occasionné une perte de 5 milliards de francs CFA. La mine, qui emploie 200 personnes actuellement, vise 1250 emplois avec son projet de transformation. L'UNICEF a lancé ce lundi un appel pour une aide d'urgence de 2,5 milliards de dollars pour 39 millions d'enfants en Afrique et au Moyen-Orient. La région compte le plus grand nombre d'enfants dans le besoin au monde en raison des conflits armés, de la pauvreté et de crises économiques, souligne l'UNICEF. Les fonds seront investis principalement dans l'éducation, l'assainissement des eaux, la santé, la nutrition et le soutien en matière de santé mentale.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La zone B du Lufoa a démarré sa qualification pour la CAN des moins de 20 ans qui aura lieu en Mauritanie en 2021. À Porto Novo, où se joue ce tournoi qualificatif, le pays hôte, le Bénin, est tombé face au Niger 1-0. Dans l'autre match du groupe A, le Togo et le Burkina Faso ont fait un match nul, un but partout. Même score pour le seul match du groupe B entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Ce soir, dans la poule A, le Bénin joue le Togo et le Niger le Burkina Faso. Le week-end a aussi été marqué par les matchs retour du tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF. En Ligue des Champions, le Racing Club d'Abidjan s'est offert à l'ASCO de Kara et affrontera Oroya de Conakry au second tour. Ça passe aussi pour les Sénégalais de Teguff qui joueront au prochain tour le Raja de Casablanca. L'aventure continue aussi pour les Tanzaniens de Simba, tout comme les Sud-Africains de Kaizer Chiefs. Par contre, le champion du Burkina Faso, Raimo, a été sorti par le Nigérian Dinimba. Déçu, l'entraîneur Djéfar Lengané se confie à notre correspondant Kader Traoré.
Je suis déçu par rapport à l'élimination, mais je suis content par la prestation que les enfants ont fait ce soir. On n'a pas démérité. Il y avait la place pour se qualifier. Ça c'est vrai. Je me projette vers l'avenir. Nous sommes inscrits dans un projet. Voilà, notre projet, c'est de comment faire pour que dans 3 ans, on puisse rentrer dans les phases de foule de la Coupe d'Afrique.
Djéfar Lengané, entraîneur du club burkinabé de Raimo FC. Le Burkina s'en sort par contre en Coupe CAF avec la qualification des Salitas FC aux dépens d'Ashanti Gold du Ghana. Après leur nul 0-0 à Obuasi, les Colombes de Ouaga 2000 se sont imposés chez eux par le score de 2-1. On retrouve une fois de plus notre correspondant à Ouagadougou, Kader Traoré, pour le point du match.
La formation burkinabé n'a pas mis assez de temps pour se mettre dans le bon sens de la qualification. 12e minute, Olivier Boissy, sur une tête plongeante, ouvre le score. À la 44e minute, le même buteur sénégalais, Olivier Boissy, permet à Salita de mener par 2-0. Avant d'aller à la pause, les mini-Edo Boissy réduisent la marque par David Sanda. 2-1, ce sera d'ailleurs le score de cette rencontre qui qualifie d'ailleurs Salitas pour les 16e de finale de la Coupe CAF. Abbas Ouedraogo, entraîneur adjoint de Salitas FC.
On a travaillé, on a cru vraiment, vraiment on peut rien dire. C'est juste féliciter les joueurs vraiment qui ont fait un travail formidable.
Autre qualifié, les Nigériens de la Gendarmerie nationale, les Camerounais de Coton Sport de Garoua. En revanche, ça cale une fois encore au premier tour pour les Congolais de Maniema Union, éliminés cette fois-ci par les Sud-Africains de Bloemfontein Celtic. Le prochain tour aura lieu du 18 au 20 décembre. Les matchs retour une semaine plus tard.
Merci Ekouba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg avec vous. Place au dossier du jour. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a mis fin hier à la coalition qu'il avait formée avec son prédécesseur, l'ancien président Joseph Kabila. Dans un discours à la Nation, il a annoncé la nomination d'un informateur, une personnalité chargée d'identifier et de former une nouvelle coalition. Ces résolutions prises à l'issue des consultations initiées par le président Tshisekedi tout le mois de novembre semblent donner satisfaction à la population congolaise. Mais une tranche de la société civile redoute une nouvelle crise. De Kinshasa, la correspondance de Valdo Simon Yamba.
La réqualification de la majorité au Parlement annoncée par le président Tshisekedi dans son discours à la Nation est un tournant historique, estime Daniel Mbao, député du mouvement des libérations du Congo de Jean-Pierre Bemba.
Le discours du chef des États, c'est un discours innovateur. C'est un discours qui jette les bases pour un changement total et radical. C'est le tournant de l'histoire. Nous, le mouvement des libérations du Congo, nous saluons la position du chef des États et nous sommes d'accord avec les réformes qui sont proposées pour donner un sens aux élections qui seront plus tard organisées en République démocratique du Congo.
Pour Chéribien Okende, membre de Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, ces discours du président Tshisekedi est maintenant attendu au niveau de sa matérialisation.
C'est un discours positif et nous attendons maintenant sa matérialisation pour voir comment nous pouvons, la main dans la main, permettre à ce que le pays sorte de cette insignifiance finalement qui ne fait que la honte de l'Afrique et la honte de l'humanité.
Pour le Front commun pour le Congo, plateforme de l'ancien président Joseph Kabila, qui perd donc son alliance avec la plateforme présidentielle, les annonces du chef de l'État violent la Constitution. Néhémie Moulalian est le coordonnateur du Front commun pour le Congo.
Le FCC note que les conclusions unilatérales qu'en tire le président de la République violent gravement la Constitution et servent de prétexte pour liquider par l'instauration d'un régime dictatorial au service d'un pouvoir personnel les institutions démocratiques établies au terme des dernières élections générales du 30 décembre 2018.
Les organisations de la société civile de leur côté redoutent qu'une nouvelle crise soit installée dans la sphère politique congolaise. Dieudonné Mouchagaloucha et Carlos Mopili sont membres de la société civile.
Mais nous avons constaté également le fait qu'il veut nommer un informateur alors que jusque-là le Premier ministre est encore en fonction, il n'a pas encore démissionné, mais également la majorité parlementaire est toujours celle qu'elle est aujourd'hui. Ça risque de nous amener dans une crise.
Deuxième problème, abandonner le FCC ou Kabila pour épouser Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, ou encore ça va créer encore des problèmes avec la mentalité de sa base. Parce qu'on a accusé aussi Vital Kamerhe, aujourd'hui c'est Kabila, demain on accusera encore Bemba.
Tout compte fait, les bras de fer entre le FCC de Joseph Kabila et les caches de Félix Tshisekedi ouvrent un nouveau chapitre dont l'issue reste incertaine. Kinshasa, Valdo Simon Yamba pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM. Au Gabon, le Covid-19 bouleverse l'agenda culturel du pays. Le festival Gabon 9 provinces, annoncé depuis plus de 2 mois en mode virtuel, bute sur des problèmes de financement. L'événement est même boudé par les artistes. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Les décibels que vous entendez proviennent d'un mini-spectacle en plein air devant l'Institut français de Libreville. Il s'agit d'un concours de breakdance et de hip-hop organisé par un groupe de jeunes promoteurs de danse urbaine. Le rendez-vous soumis à des règles de distanciation sociale en plein Covid-19 est à sa seconde édition. Jean-Hussein Bicoro, co-organisateur du gala de danse urbaine.
Nous n'avons pas eu de sponsor et l'Institut français du Gabon qui nous a prêté son espace l'a prêté gracieusement. Donc nous n'avons pas une contrepartie financière pour nous soutenir dans ça.
Les cris de détresse des créateurs d'œuvres de l'esprit sont les mêmes partout, y compris chez les artistes des chants chrétiens. Marcelin Landon Abessoulo est auteur-compositeur.
Toutes les cérémonies qui tournent autour de la vie chrétienne sont presque suspendues. Ce qui fait que les groupes sont abandonnés à eux-mêmes. Et je suis en train de vouloir mettre en place un nouvel abou. Et pour le moment, les choses se compliquent davantage.
D'après les médias locaux, la diffusion des productions d'artistes étant conditionnée au respect des droits d'auteur, il devient difficile de leur offrir des espaces. Alexis Pierre Zassi, directeur de programme à Radio Gabon.
Avec le Bureau gabonais des droits d'auteur, ces artistes pourraient bénéficier de leur dû en diffusant cette musique à la radio.
Ça veut dire que votre marge de manœuvre est réduite, quand bien même il y a la volonté d'aider les artistes.
Vous réduites peut-être sur le plan pécunier. Nous avons ouvert nos antennes aux artistes. Quitte aux artistes maintenant à eux de venir vers Radio Gabon. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que tout s'intéresse à l'image.
Le secteur ne se portait pas déjà mieux avant la crise sanitaire. C'est l'occasion d'une profonde introspection avant un possible redémarrage des activités. Dominique Douma est un intarissable chantre du théâtre gabonais.
À quelque chose, malheur est bon. Moi, je me suis lancé dans l'écriture. J'ai le roman Moueni qui est sorti, Vokuna qui est sorti. Et là, je viens de terminer 8 nouvelles pour l'apparition de mon recueil de nouvelles. Que ça m'a permis d'écrire, d'avancer aussi quelques pièces de théâtre que je suis en train de préparer.
Par ailleurs, plusieurs artistes gabonais ont appelé au boycott du festival Gabon 9 Provinces qui devait se dérouler en octobre dernier sous un format virtuel en raison de la pandémie. Faute d'une communication officielle sur la nouvelle date de l'événement, beaucoup pensent à un aveu d'échec de la part du ministère de la Culture. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
Mandia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, Félix Tshisekedi rompt avec le FCC de Joseph Kabila et veut une recomposition de la majorité parlementaire avec la nomination d'un nouvel informateur. Une décision qu'il a prise à l'issue des consultations politiques lancées le mois dernier. Les alliés de l'ex-président, toujours majoritaire au Parlement, disent avoir pris acte. Quelles sont les options du président Tshisekedi pour obtenir une majorité parlementaire? Quelles conséquences politiques de ce bras de fer FCC cache? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi 10 décembre 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Républicains et démocrates travaillent sans relâche pour mobiliser les électeurs de la Géorgie en vue du second tour du scrutin le 5 janvier qui va décider le contrôle du Sénat américain. Mais les républicains sont également divisés sur les résultats de la présidentielle du 3 novembre, le président Donald Trump affirmant toujours qu'il y a eu une fraude généralisée. Un reportage de Michel Quinn, le récit Lionel Gaïma.
La pression monte dans l'État de Géorgie, dans le sud des États-Unis. Démocrates et républicains encouragent les électeurs à commencer à voter dès le 14 décembre pour le second tour des 2 sièges âprement disputés au Sénat américain. Les résultats de ces élections du 5 janvier vont déterminer quel parti politique aura la majorité au Sénat. Le président Donald Trump s'est lui-même rendu sur place, appelé à la mobilisation de sa base républicaine.
L'enjeu de cette élection est le contrôle du Sénat américain et cela signifie vraiment le contrôle de ce pays.
L'ancien président démocrate Barack Obama a lui aussi rappelé les enjeux de ces 2 sièges au Sénat.
Les élections spéciales en Géorgie vont déterminer en fin de compte le cours de la présidence de Biden et si Joe Biden et Kamala Harris peuvent respecter par la voie des urnes tous les engagements qu'ils ont pris.
Pour les républicains, les sentiments sont partagés quant à l'intégrité du système électoral de cet État qui a toujours voté en leur faveur. Le démocrate Joe Biden y a remporté la présidentielle par environ 12 000 voix d'avance, Le président Donald Trump a appelé le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, un républicain, pour demander à la législature de l'État d'annuler ses résultats et d'ordonner un audit des bulletins de vote par correspondance. Lors d'un rassemblement ce week-end en Géorgie, M. Trump, qui refuse de considérer la défaite, encourage vivement les électeurs dans cet État à aller voter.
Vous devez aller voter, et voter tôt, à partir du 14 décembre. Vous devez le faire. Ils ont triché, ils ont truqué notre élection présidentielle, mais nous continuons de gagner. Nous la gagnerons toujours.
Ce message mitigé complique la tâche de certains dirigeants de la Géorgie, dont beaucoup sont républicains, comme le gouverneur Brian Kemp et le secrétaire d'État Brad Raffensperger, qui supervise le système électoral de l'État.
Le travail du Parti républicain est de collecter des fonds et de voter. Mon travail en tant que secrétaire d'État consiste à m'assurer que nous avons des élections justes et équitables. C'est aussi simple que ça, et je pense que pour mon bureau, l'intégrité a de l'importance.
Raffensperger ajoute que la désinformation autour des résultats de l'élection présidentielle complique les efforts des républicains pour remporter le vote.
Eh bien, ça rend les choses, ces distractions, cette désunion, ça rend les choses plus difficiles et les candidats mènent une course difficile.
Dans les semaines à venir, tous les yeux seront tournés vers la Géorgie, qui va déterminer le 5 janvier qui aura le contrôle du Sénat américain.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Michel Joseph, Lionel Gaïma, au micro Pierre Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Dans le but de générer de nouvelles idées en vue de promouvoir un développement effectif, l'Agence des États-Unis pour le développement international a lancé un programme projet d'innovation dans le développement. C'est un système de déroulement par lequel n'importe qui peut soumettre une bonne idée sur n'importe quel sujet, de n'importe où dans le monde et à tout moment, a dit le secrétaire exécutif du bureau du laboratoire mondial du développement, Harry Bailey.
And the lab will work with them. It is an evidence-based process where it is paid for performance.
Ensuite, le laboratoire travaillera avec eux, dit-il. Il s'agit d'un processus fondé sur des preuves, typé sur la base de performance à certaines étapes, ainsi que pour le renforcement des capacités et la création d'un partenariat non traditionnel afin que les participants contribuent à part égale au développement dans leur propre pays ou dans d'autres pays. À travers le programme Projet d'innovation dans le développement, l'USAID emploie le secteur privé pour développer des solutions efficaces. Prenez par exemple Phoenix International, a dit le directeur Bader.
Phoenix will go out and they'll put a solar array on an individual person's home that can supply.
Monsieur Bader dit que Phoenix installe sur la maison d'une personne un panneau solaire qui peut fournir une certaine quantité d'électricité au cours d'une journée. Et si cette personne est en mesure de payer ce jour-là, elle peut utiliser son téléphone pour informer la base qu'elle vient d'effectuer un paiement de, disons, 33 centimes pour la consommation d'électricité de cette journée. Et puis, via leur siège, la compagnie contacte un satellite et peut alors mettre en marche le panneau solaire. C'est une manière incroyable d'étendre l'utilisation et l'accès à l'électricité lorsque vous êtes hors réseau, dit le directeur Bader. Ayant besoin de fonds pour étendre leur opération, Phoenix a demandé un investissement de l'USAID. L'USAID a fourni un don de moins $1 million. Phoenix, connu comme Engie Energy Access, a utilisé ces fonds pour s'étendre, investissant encore plus de fonds pour développer ses opérations. Et nous avons développé ce modèle pour résoudre un problème et qui aide les actionnaires à gagner de l'argent et fournissant un service si crucial, l'électricité et la lumière, qui peut éradiquer l'analphabétisme, car si vous étudiez, vous pouvez résoudre les problèmes de la production agricole et de la famine, et cela contribue à la croissance économique. Car l'un des aspects importants de l'élimination de l'extrême pauvreté est de connecter quelqu'un à l'infrastructure digitale mondiale, a dit le directeur Bader. Et c'est quelque chose qui peut se faire sur la base d'un modèle dont Phoenix a été la pionnière, mais qui a été partiellement financé par le laboratoire du développement mondial de l'USAID.